Danger.
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 Danger. Danger.
Et voilà, une nouvelle émission Danger dont je suis très content parce que c'est... On n'est pas vraiment au courant, mais en fait le sujet dont on va parler est dangereux. En tout cas, les personnes qui y touchent. Alors non, on ne parle pas de drogue, mais on parle de modulaire. Et avant que je donne la parole à François qui est avec moi pour parler du festival WAM, We Are Music Maker, dire que, en fait, par exemple, juste pour me parler de ce type de victime, des modulaires, un musicien plutôt intéressé par l'expérimental a acheté au moment du Covid un module, puis deux. Et puis après, il s'est mis à ne faire que ça, a pratiquement arrêté de travailler. Et heureusement, il a été sauvé par Radio Campus, puisqu'il est venu faire une émission Tanguy, entre autres, avec d'autres personnes, où il vient jouer tous les quatrièmes samedis du mois à Radio Campus en live, avec ses modulaires et avec d'autres personnes qui viennent en plus. Donc voilà, on est sur une rémission. Radio Campus est aussi là pour suivre ces petits problèmes d'addiction, ou en tout cas de ce truc. Bah, c'est bien plus, j'en rigole, mais c'est de rentrer dans le modulaire. Il y a quelque chose d'assez incroyable, en tout cas chaque personne qui est dedans. Donc je suis très content, François, qu'on se soit croisé, que tu m'aies dit prenons un peu de temps pour parler du festival que vous organisez, qui a lieu du coup ce week-end. Le 5-6 à Bruxelles. We Are Music Maker, ça a été facile de trouver le titre de ce festival-là.
Alors, je vais rebondir un tout petit peu.
Vas-y.
Quand tu parles d'addiction, c'est comique parce que le format le plus populaire de modulaire s'appelle le RORAC et dans le milieu, il y a certaines personnes qui l'appellent le RORAC pour ce côté addictif, tu vois. Donc
on est d'accord qu'il y a quelque chose.
C'est mondialement connu qu'il y a quelque chose d'addictif à ça, ouais. Tout à fait. Alors le titre du festival c'est We Are The Music Makers. Ben en fait il vient de deux choses. Il vient de ce fameux track d'Aphex Twin, We Are The Music Makers, qui vient d'ailleurs d'un poème, We Are The Music Makers and We Are The Dreamers of the Dreams. Et aussi ça a donné un acronyme qui est WAM, et c'était un peu un clin d'œil au plus gros événement lié à l'industrie des instruments de musique généraliste, enfin pas forcément électronique, ça s'appelle le NAMM à Los Angeles. Et donc, on a eu cette idée de We Are The Music Makers. Oui, c'est un peu long. L'acronyme, c'est quoi? C'est WAM. Ah, bon, en fait, c'est juste une lettre qui change par rapport au NAMM. C'est un peu une blague par rapport à ça. On trouvait que ça sonnait bien. On trouvait que ça faisait plein de sens. Il y a la musique, il y a le côté makers dedans. Même si makers, c'est pas forcément un terme dont on est fan. Parce que c'est associé fort au DIY. Dans le monde du modulaire, pour les gens qui ne connaissent pas le modulaire, on a fort toujours cette image de gens qui bricolent, qui continuent à souder, alors que la réalité de beaucoup de marques de modulaire, maintenant, on n'est plus vraiment là-dedans, quoi.
Toi, tu fais partie d'un collectif, Chacmat, qui, du coup, produit...
C'est ça, une marque de modules.
Une marque de modulaire, qui existe depuis quand même un moment, non?
Depuis 11 ans, maintenant, 11 ans. Tout à fait.
À Bruxelles.
À Bruxelles, on est basé à Bruxelles, à Saint-Gilles. Donc, on a commencé à deux avec Steve, un peu sur un... Paris, de voir. Moi, j'avais fait des petits prototypes pour moi, mais qui étaient juste voués à ma propre utilisation. Et j'ai commencé à avoir un peu l'intérêt pour ces petits prototypes. Et donc, un jour, on s'est dit, tiens, essayons dans notre vie de, on va dire, avec des gros guillemets, industrialiser un produit. Mais ce qui était déjà un gros step-up par rapport au fait d'avoir fait mes prototypes, qui étaient des bouts de trucs faits avec des bouts de scotch, des petits fils et tout ça. Ça nous a quand même pris un an et demi de passer de l'étape de ces petits prototypes à ce produit un peu fini. Alors je dis vraiment avec des gros guillemets parce qu'on soudait effectivement. Là, on pouvait plus s'appeler des makers parce qu'on soudait tout dans ma cave à l'époque. Alors maintenant, on va faire un bon 10 ans plus tard. Surtout post-Covid, hein, parce que comme tu l'as dit, l'addiction a pris chez plein de gens pendant le Covid.
Il y a eu un vrai boom à ce moment-là.
Il y a eu un vrai boom, tout à fait. Il y a eu un vrai boom, mais du coup, le danger, c'est qu'il y a eu un vrai creux après. Parce qu'on peut se dire que si... 1000 personnes étaient vouées dans les 5 années à venir à se mettre au modulaire, ben là il y a eu une année précise où tout le monde s'y est mis.
Ah ouais.
Et donc les années après, la contrepartie c'est qu'il y a plein de gens, il y a eu, les ventes sont quand même retombées, etc. Mais nous, pour une raison, bah, j'imagine qu'on fait bien notre boulot, on n'a jamais trop senti ce creux, mais par contre on a vu que ça a vraiment fait du mal à ce qu'on appelle la scène chez nous, donc, parce qu'il y a un truc un peu ambigu entre du business et le monde artistique, qui est là, on parle d'une scène modulaire, parce que beaucoup de gens viennent de ce milieu DIY, on connaît par exemple des très grosses marques, comme nos amis d'Eric Assine qui sont présents au salon, où le gars a commencé à vendre des répliques de vieux modules qui étaient des parties de synthé russes, Donc on appelle le Polyvoc, et donc ce gars qui a monté cette boîte, Eric Assint, à l'époque, revendait des puces russes parce qu'il est en Lettonie, qu'il pouvait trouver encore en Lettonie pour faire sonner exactement ces modules comme les vieux synthés russes de l'époque. Et donc on vient là par exemple d'une personne qui envoyait lui-même par la poste à quelques clients en Europe et aux États-Unis ses puces et ses PCB pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur truc, à une vraie boîte maintenant qui est devenue une boîte qu'on peut commencer à comparer à des grosses marques comme Arturia, Korg ou Roland.
Ah
oui, quoi.
C'est un grand pas.
C'est un en 15 ans, parce qu'ils sont un peu plus vieux que nous, on fait un énorme pas, exactement.
Le site, c'est wam2m.io, ouais. Qui est assez bien foutu, il y a beaucoup d'infos, donc voilà, on parle quand même un peu de cette base, mais là, c'est un jour de salon comme ça, où il y a plus de 37 invités, il y a pas mal de concerts, une pré-party, une after-party. Oui. On va essayer de se balader là-dedans. Ce qui, moi, je suis assez content, c'est qu'on va, je pense, se faire un petit panel de plein de choses liées au modulaire.
Oui.
Et qui, en plus, du coup, les lieux, on peut aussi tout de suite les citer. C'est
Palazzo le vendredi soir, donc c'est 190 rue Theodor Verhagen. Ensuite, on a, on va dire, la partie principale de l'événement qui se passe à la Smart, donc pas la Vallée, parce qu'il y a des gens qui ont eu une confusion. Donc on fait bien un événement à la Smart, 72 rue Conrad, 1065 Gilles. Et ça, c'est la partie effectivement où il y a l'exposition, il y a des talks, il y a des workshops, il y a des lives. Et puis on a une after party au C12, plus exactement on va occuper la salle du C11, parce qu'il y a une autre teuf en même temps au C12. Et si vous achetez des tickets via chez nous, vous pourrez avoir accès aux deux teufs. Alors au Palazzo, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir une très longue performance de 10 musiciens modulaires qui font à la fois partie de la scène bruxelloise et certains qui viennent de l'étranger, qui sont plutôt des fabricants de modules. Et en fait, ils vont faire une longue performance, dans le sens où c'est 10 lives d'une demi-heure qui vont s'enchaîner pour une durée de 5 heures totale. Et on a demandé à tous les musiciens de collaborer pour pouvoir avoir des inter...
Il y a des transitions un peu.
C'est ça, en fait, ils vont transitionner ensemble. Donc là, ils sont tous en train de discuter sur les tempos, comment on va transitionner. Donc là, on va retrouver, je peux vite faire la liste des gens qui jouent. Il y a, pour commencer, Victor Cadage. Victor est un fabricant de pédales, parce que c'est vrai qu'on parlait de modulaire beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a aussi des fabricants de pédales qui viennent au salon, dont pour ceux qui sont un peu dans le monde des pédales, je crois les plus... Moi, bon, en tout cas, ceux sur lesquels je suis le plus admiratif sur leur boulot pour l'instant, c'est-à-dire Chess Bliss, qui est une marque américaine, et qui est à moitié basée en Europe maintenant. Il y a Drolo, qui est un peu un gros fabricant de pédales belge aussi, et il y aura Butterfly Effect, dont vient Victor. Alors, s'ensuit ensuite, alors je vais peut-être pas le faire dans le bon ordre, Constantine, qui a sa propre marque qui s'appelle Constantine. Ensuite, on va avoir Zurbir, qui lui fait partie d'une marque qui s'appelle Morfor, une marque d'Anvers, qui font un super chouette synthé polyphonique. Et alors, après, je vais peut-être le faire un peu dans un ordre un peu random. Atov, qui vient aussi d'un projet qui s'appelle Atov Project, où eux font un peu des contrôleurs MIDI CV, comme ça, qui sont assez intéressants. Cornil, qui est quand même relativement connu ici dans la scène bruxelloise, un musicien assez expérimental.
Ambiante plutôt.
Alors, il a une version Cornil qui est plus techno, un peu dark, et là, je crois que ce serait une formule plus XP, plus ambiante. Maman Custers, c'est le projet de Gaël Loison qui fait partie de plein de projets musicaux différents, assez intéressants, dont Dale Coopers and the Dictaphone Quartet, mais qui est aussi un fabricant sous le nom de Twelve Squarn, c'est un breton, qui notamment développe des instruments personnalisés, par exemple pour Jan Tiersen, et puis qui commercialise des designs qui font en collaboration avec Jan Tiersen, quoi. Mudcorp, qui est aussi pour certains qu'on ne présente plus, qui est un super chouette artiste modulaire, plutôt dans une vanne techno. Tenji, qui est un gantois, qui travaille pour Yoranalog, qui est aussi un chouette artiste techno en modulaire. Torque, c'est le projet d'Oscar, qui fait le canal YouTube Underdog Music School, qui est un canal éducatif qui est super chouette sur l'apprentissage de la musique électronique. En fait, c'est un gars qui a une super chouette pédagogie, et puis c'est un gars humainement assez, assez chouette.
En français, en anglais, sa chaîne ?
En anglais. Ouais. En anglais. C'est un flamand de Bruxelles, je crois, mais sa chaîne est internationale. Ouais, ouais. Alors pour la petite anecdote, Underdog, c'était une école physique à Bruxelles. Et il a commencé son école juste avant le Covid. Et il a eu les très bonnes décisions pendant le Covid de transformer ça en canal YouTube.
Ah ouais.
Et ne pas désespérer. Et en fait, son canal YouTube a littéralement explosé pendant le Covid. Ah ouais. Parce que ce gars est très doué pédagogiquement. Alors, un vétéran de la scène électronique bruxelloise, maintenant, c'est Uctur, qui fera du coup aussi un set live toujours au Palazzo. Et je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. J'ai cité les 10.
Bien joué. Et donc, ouais, on est essentiel. Pas mal de Belges, hein, quand même. C'était aussi une de mes questions. La scène bruxelloise qui utilise du modulaire, bah, c'est sûr qu'elle existe. Et la scène de constructeurs aussi.
Oui, alors ici, il y a beaucoup de Belges, mais il y a beaucoup de Belges qui ne sont pas forcément bruxellois. Zurebeer, par exemple, et Dungy, c'est des gens d'Anvers et de Gand.
Okay.
Qu'on connaît plus par la scène modulaire internationale que vraiment par la scène bruxelloise, quoi. Mais on a voulu absolument garder dans l'ADN de cet événement le côté bruxellois, parce que je crois que c'est très important que la scène locale soit représentée.
Vous avez réussi à avoir tout le monde ou il y a quelques personnes qui n'étaient pas disponibles ?
Alors, on a réussi à avoir tout le monde. Ben, déjà, on était limité à 10. Et on se disait, on va ouvrir la moitié des slots à des constructeurs et la moitié à la scène bruxelloise.
Ah oui, ok.
Donc, on a pu remplir assez vite quand même le line-up. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que l'âge se faisant, moi, j'ai organisé pendant des années des événements au central. Je crois que j'ai organisé 25 rencontres modulaires au central. Et donc, c'est plus des gens que je connais de cette période. Faut savoir qu'il y a beaucoup plus de musiciens maintenant d'une génération un peu plus jeune, mais qu'on a voulu aussi mettre en avant dans une autre partie de l'événement. Là, on s'est dit, faisons un peu un truc avec des vieux vétérans et ces gens qui viennent de l'étranger. On peut parler maintenant du samedi, j'imagine.
Eh bien, continuons, j'allais te proposer. Là, on s'est mis une petite... pas une petite boîte, on fait attention pour être en forme le samedi, parce que c'est ça,
oui,
là,
la grosse journée. Oui, et on a fait attention dans le sens où le vendredi, ça finit 1h du matin. Ça commence à 7h30 du soir, ouverture des portes, petit drink avec tout le monde. Et de 8h à 1h, c'est les 10 lives qui s'enchaînent.
Et ça, c'est 10 balles. Si
je me c'est 10 balles, tout ça. À fait. Et c'est 1 euro par musicien.
Et le Palazzo, c'est vraiment à côté de Bethléem, quoi. C'est vraiment.
C'est ça, c'est dans le bas de la rue du Theodor Verhagen, c'est dans le bas de Bethléem, c'est ça.
Voilà.
Le samedi, c'est un événement, donc encore une fois, qui se passe à la Smart, 72 rue Conrad, Saint-Saint-Gilles. Le gros de l'événement, c'est un salon, expo, il y a plein de noms pour ça, où effectivement, comme tu disais, il y a 37 fabricants d'instruments de musique électronique qui viennent. Alors, je n'ai pas envie de mettre modulaire pour tout le monde, parce que comme le disait par exemple, il y a des fabricants de pédales qui viennent. On fait aussi le festival en association avec une boîte qui s'appelle Beatsurfing. Et Beatsurfing, c'est... peut-être que vous avez déjà vu dans votre feed Facebook des espèces de plugins qui apparaissent avec des formes bizarres qui changent dans tous les sens. Ben ça, c'est les plugins de Beatsurfing qui ont une reconnaissance quand même assez internationale, qui collaborent avec des gros producteurs pour faire leurs plugins.
C'est-à-dire quoi, des plugins ?
Des plugins VST, alors beaucoup de VST instruments. Okay. Maintenant, ils sortent aussi des VST, donc des process, des effets que tu m'en insères sur tes tranches, quoi. Ils ont une approche super intéressante. Peut-être pour ceux qui connaissent les gens de Beats, qui ont fondé Beatsurfing, c'est des gens qui avaient un projet qui s'appelait Hermout Lobby, qui était déjà à l'époque un projet un peu hip-hop of beat, un peu expérimental. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est qu'ils détournaient plein de machines déjà à l'époque pour des utilisations musicales pas très classiques. Par exemple, un joystick pour créer des beats, en bougeant le joystick. On va prendre une table, un contrôleur DJ. En fait, c'est le mouvement du fader qui va aussi créer des effets de charlet ou de kick, ce genre de trucs, quoi. Et donc, ils ont toujours eu un truc dans la recherche musicale. Et un jour, à force d'accumuler autant de technologies, de chouettes idées avec leur projet musical, ils se sont dit, je crois que leur démarche en fait, a vraiment été de se dire, on aimerait bien donner ça maintenant accessible à tout le monde. Et je crois que le Pascal Demey, donc le fondateur de Beatsurfing, me disait l'autre jour, moi j'ai toujours eu envie que, et je crois que beaucoup de musiciens commencent à se reconnaître là-dedans, ce kiff que j'ai quand je joue de la musique, en fait, j'aimerais vraiment bien que des gens qui ne soient pas musiciens puissent l'avoir aussi. Et dans cette idée-là, ils se sont mis à créer des applications sur tablette, où on peut en fait faire des espèces de remix en direct de morceaux qui existent, faits par d'autres producteurs. Et eux, au festival, vont avoir une pièce entière. On peut utiliser plusieurs morceaux sur tablette comme ça. Ils vont présenter aussi plusieurs plugins. Et donc, eux ont une pièce à part pour expérimenter tous ces plugins qui sont hyper intéressants. Et encore une fois, ce qui est très chouette, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment d'être musicien pour utiliser. Et il y a vraiment ce truc, moi qui ai moi-même essayé ça. Après 30 secondes, on est déjà dans le kiff total à jouer de leur truc, quoi. Alors, on a une partie talk aussi. Dans les talks, c'est donc Oscar d'Underdog, dont on parlait tout à l'heure, qui va hoster les talks. Il y a 4 talks, il y en a un sur la spatialisation de la musique. Donc en fait, il y a plein de techniques de spatialisation. On va inviter pour ça Laurent Delforge, aka Squeaky Lobster ou Before Tigers, pour ceux qui connaissent, qui est un professeur à l'école acousmatique de Mons, enfin Arcaré. Donc c'est un des professeurs principaux en acousmatique là-bas. Donc ça c'est une vue de la spatialisation. On a aussi une boîte bruxelloise qui est en train de développer une table de mixage DJ Surround. Oui, ça okay. existe.
Donc mixé avec...
C'est ça. Alors c'est vraiment une table de mix DJ, donc très ouais. user-friendly, très direct pour le live. Ouais. Et en même temps, qui a des capacités de traitement surround, d'autopanneur, de delay, avec des lignes de delay différentes pour 8 haut-parleurs. J'ai pu l'essayer dans leurs locaux il y a quelques mois, c'est hyper emballant. Donc ça c'est une deuxième vision, c'est le surround qui est en train d'arriver dans certains clubs petit à petit. Leur table n'est pas encore en vente, mais ils envoient régulièrement des tables dans des événements où ils ont envie de... je crois que c'est la Tonal à Berlin qui avait par exemple envie de faire plusieurs soirées de clubbing en spatialisation. Et c'est leur table qui est la seule qui existe mondialement sur le marché. Et le troisième intervenant, ben, c'est moi, parce que en fait le modulaire est fort lié à la quadriphonie. Et on a une manière très particulière de faire de la quadriphonie avec les synthétiseurs modulaires. Donc ça, premier talk. Deuxième talk, c'est sur l'idée des sons analogiques. Qu'est-ce que ça veut dire, le son analogique ? Et là, pour ce talk-là, on va inviter des gens de chez Morfor, qui sont des constructeurs de synthé analogique, et en même temps un développeur de chez Ableton, Marc Résibois, qui habite ici à Bruxelles, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle le virtual analogue. Donc c'est comment coder de manière digitale ce son analogique. Donc c'est quoi ? Ouais. Comment ça se fait que des gens qui développent de manière digitale ont cette recherche du son analogique aussi ? Troisième talk, ça va être sur l'idée de la performance avec des ordinateurs. Bah, ça, on a des gens de Beatsurfing qui sont très experts dedans. Mais on a aussi un invité de Marc, qui est Tim Exile, qui est un Tim Exile, je ne sais jamais comment le dire. Désolé, Tim. Qui est un artiste qui a développé de nombreux plugins pour Native Instruments. Mais c'est un artiste qui a signé chez Warp, donc le label d'Afex Twin, Square Pusher, etc. et chez Planet Mu. Et qui lui a toujours une super chouette approche d'improvisation avec, avec des plugins qui fait avec des ordinateurs de manière générale. Et la troisième intervenant, c'est un intervenant de chez une boîte qui s'appelle Embodme, qui construisent des contrôleurs MPE en France. Et le dernier talk, c'est pour les 10 ans de Your Analog, qui est une marque belge de synthétiseurs modulaires analogiques, où là, ce sera plus une démo, un peu un focus sur la philosophie de Your Analog.
Ça sera en français, anglais, ça dépend.
Anglais, les talks sont anglais. Okay. Alors, parlant de bilinguisme, ben, on aura aussi des workshops. Alors, il y a des workshops DIY auxquels il faut s'inscrire sur notre site wam.io. Vous pouvez construire des modules, soit avec Shackmat, soit avec 12Squarn, soit avec Error Instrument, qui font un super instrument, un peu de noise, de rituel, où l'instrument réagit à une bougie qu'on met au milieu pour créer du son. Donc, ça s'appelle Das Ritual, d'ailleurs, le module.
Et donc, si on prend, on prend le pass pour la journée, pour le festival, et qu'on s'inscrit, il y a une petite contribution et on construit un bout de module.
En fait, on achète souvent dans ce genre de cadre, on va acheter c'est souvent des kits qui sont en vente dans certains magasins. Et souvent, ce que les fabricants pratiquent, c'est qu'ils font une réduction. Et alors, le bonus là-dedans, c'est qu'on construit avec le fabricant, on est sûr à 100%. Si c'est votre première fois, je vous conseille vraiment de le faire là parce que vous allez le faire avec des gens qui vont vous apprendre en plus à souder si vous n'avez jamais soudé. Et en plus, vous allez le faire avec les constructeurs. Donc, ça veut dire que vous êtes sûr à 100% en sortant de là que votre module fonctionne et vous aurez en même temps un peu une sorte d'éducation à la soudure, au DIY modulaire. Il y a aussi des workshops éducatifs qui sont gratuits. Enfin, il faut payer l'entrée. Mmh. C'est mieux de s'inscrire à l'avance pour les workshops éducatifs parce qu'on limite, il reste encore des places, mais ça commence à bien se remplir. Donc, il y a un workshop donné par Jean Mudcorp sur le béaba de la synthèse. Ouais. Si vous connaissez rien au synthétiseur, vous avez envie de dire, mais c'est quoi en fait un synthétiseur ? C'est le workshop parfait. Il y a deux sessions, les heures sont sur le site, une en français, une en anglais. Et puis, un deuxième workshop donné par Pierre Collard. Pierre Collard qui donne en fait des workshops de VC Verac, qui est un programme gratuit qui permet de reproduire un synthétiseur modulaire dans un ordinateur. Et en fait, lui donne régulièrement des workshops à la librairie d'Ixelles via le collectif Résonance. Et je sais que c'est des workshops qui ont un énorme succès. Et là, la proposition, c'est qu'il va faire un patch collaboratif. Donc, des gens qui vont venir. Alors, vous pouvez très bien être complètement débutant ou hyper expérimenté. Je crois que ça va être assez chouette de participer à ça. Et dernier workshop, c'est Yann De Bloch qui fait partie du collectif Bleep, qui est un collectif expérimental flamand, et lui il va te donner un peu un workshop, un talk sur l'idée du DIY. Okay. Ça veut dire quoi modder un circuit, etc. Je l'ai déjà vu faire, c'est hyper passionnant aussi, même chose, c'est gratuit. Et je crois que Yann De Bloch, c'est plutôt en début d'après-midi. Dans les workshops aussi, Beatsurfing propose un bêta testing d'un plugin en exclusivité, juste pour avoir du retour. C'est l'occasion d'aller voir des instruments que personne ne connaît encore. Et Embryo, ces fameux développeurs de tables de mixage surround dont on parlait tout à l'heure, vont donner aussi un workshop dans le sens où on va pouvoir aller à leur stand pendant l'expo, mais il n'y a pas de système en octophonie dans là-bas. Donc eux, ce qu'ils proposent, c'est que la dernière heure de l'expo, eux vont prendre d'assaut une des salles, on va pouvoir les tester en live sur un système octophonique. Leur principe de spatialisation de leur table de mixage spatialisée. Et alors, le dernier volet de la Smart, ce sont des lives où là, on va avoir...
Donc, c'est vraiment dans toute la Smart, ça va se passer. C'est
ah oui, là, ouais. On n'a plus de locaux disponibles. donc, par rapport à tout l'espace commun de la Smart, les salles de... On va dire les salles de meeting et la coop, on utilise tout. Là, on peut... Si on doit s'agrandir, on doit casser les murs l'année prochaine. Alors, dans les lives, il y a Music for Hiccups, qui est un collectif, enfin, qui est un duo... de deux Italiens basés en Belgique, c'est voix et modulaire. Je crois que si je devais mettre une étiquette musicale dedans, c'est vraiment un côté très free, expérimental, mais c'est hyper intéressant. Alors c'est comme parce que c'est deux musiciens qui viennent du jazz assez traditionnel et qui ont encore des projets de jazz plus traditionnels, mais là ils sont vraiment dans une vision beaucoup plus free du jazz avec des instruments électroniques. Ensuite on a Sasha Sykes, qui est aussi une musicienne jazz de formation, mais qui fait un live plutôt... La dernière fois que je l'ai vu, c'était un registre plutôt ambient, assez mélodique, avec l'utilisation de la voix aussi. C'est super beau. Ensuite, on a Leonard Steyart, qui est un musicien, qui est aussi développeur, pour, notamment qui est développeur chez Shackmat, donc développeur... comme on dit, développeur électronique embarqué, donc c'est lui qui crée des codes pour, les, pour des instruments de musique électronique. Et il a un projet qui est une sorte de pop assez décalé, avec des harmonies très particulières, un peu inspirées de Messiaen, avec de la guitare, du synthé, des sons, je sais pas, il y a un côté où ça va un peu vers l'électronica, vers la musique classique, et avec sa patte bien à lui. Ensuite, on a Hermon Klobit, donc les fameux dont on parlait tout à l'heure, qui n'ont plus joué depuis je ne sais pas combien de temps, qui viennent avec des guests, non des DJ et des MC, pour un live plus hip-hop, mais aussi avec toute cette pratique de leurs instruments sur tablette. Et Pascal, qui a développé ces instruments, il est très impressionnant de le voir utiliser ses propres instruments. Et pour finir, on finit à la Smart avec Johnny Superglue. Alors Johnny Superglue, c'est un musicien que je connais depuis 15 ans, je crois, qu'on avait des collectifs avant, on organisait des soirées régulièrement. C'était un peu un de mes préférés à booker parce qu'il a ce codé où c'est à la fois pointu et en même temps très accessible. Alors, je sais que Johnny Superglue, par exemple, un de ses plus gros fans, c'est, évidemment, j'ai oublié le nom maintenant, Headbanger, Buzzy P.
Pedro Winter.
Pedro Winter. Un de ses plus gros fans, c'est Pedro Winter. Alors, moi, je ne suis pas du tout fan, par exemple, de Headbanger, mais je trouve ça passionnant que moi, quelqu'un qui n'est pas du tout... c'est même goût musicaux que Pedro Winter et que Pedro Winter, que les deux on soit fan de lui, me dit, c'est inévitablement, il a quelque chose d'assez chouette, et c'est lui qui clôturera jusque 10h du soir la Smart, et après on transitionne, on a une heure pour transitionner vers le C12, et au C12 on a une after party. Alors pour le C12, je vous conseille vivement de prendre vos places en pré-vente sur Resident Advisor, sur WAM After Party, sur Resident Advisor. Et là, on va enchaîner...
Ça, c'est 12 en pré-vente, un truc comme ça ?
C'est 12 en pré-vente, je crois. Ouais, oui, tout ça. À fait.
Et le salon, c'est
10. C'est 10 sur place. Ouais. Palazzo et salon, on ne peut prendre que à la porte. Voilà. Et alors, le C12, il y aura Team Exile qui vient faire un live. Même chose, Team Exile n'a plus joué. C'est son deuxième live depuis 10 ans. Il a été papa, il a... Il a eu mille histoires dans sa vie, il a commencé à plus à développer des instruments de musique aussi pour Native Instruments, comme je disais tout à l'heure. Et là, il se remet à faire des lives, on est très heureux qu'il ait accepté de jouer chez nous. J'ai eu la chance de voir son premier live de sa reprise de tournée à Bristol l'année passée. Et il fait maintenant un live audiovisuel, et c'était déjà super avant. Et là, ça... je vous le conseille très vivement. Donc encore une fois, artiste de chez Warp et de chez Planète Mu. Ensuite, il y a Aléa, qui est un projet audiovisuel dont je fais partie avec un dessinateur et un, on va dire, animateur. L'idée, c'est de faire une espèce de dessin animé assez expérimental. Alors, c'est un peu bizarre à dire, un dessin animé expérimental, avec de la musique. Sauf qu'il faut mettre tout ça en contexte, où c'est quand même la musique qui est quand même assez club, assez rentre-dedans, avec des visuels assez intenses. C'est un style de musique, je sais pas, qui est entre la bass music, la techno et la musique industrielle. Ensuite, on a DJ Crassus, qui est un DJ bruxellois qui est actif depuis très longtemps à Bruxelles, qui est un peu notre arme secrète ultime, parce que ce gars a une culture musicale de malade, sait se glisser partout, surtout dans des contextes où musicalement ça peut un peu aller dans tous les sens. Donc il y a vraiment, sur cette soirée au C11, un côté assez clubbing, mais un peu avec un côté expérimental dans cette forme de clubbing. C'est aussi une soirée audiovisuelle, il y a aussi un VJ toute la soirée. Team Exile fait un live audiovisuel, Aléa c'est un live audiovisuel. Et pour tout le reste de la soirée, il y a Mike Latona qui vient faire du VJing. Donc il y a Crassus après Aléa, et après Crassus, il y a Animistic Belief, qui est notre tête d'affiche, qui est un duo de Rotterdam, qui est une sorte de mélange de clubbing, de bass music, un peu de gabber. C'est super, je les avais déjà vus il y a très longtemps, plusieurs fois, et je les ai revus cet été au micro-festival, et ça m'a remis une claque, et j'ai pensé directement à eux. Et on finit la soirée avec une découverte pour ma part de cette année, qui est Big, qui est une DJ de Gand, qui, à mon avis, va nous faire un set entre bass music, toujours avec un côté un peu mutant, comme tout le reste de la soirée, et bass music, à mon avis aussi, dans la continuité d'Animistic Belief.
Et c'est assez génial, du coup, le paysage que tu viens de nous faire fait aussi résonner qu'en fait, on sent que c'est d'organiser ce genre de salon, d'événement, en fait, c'est plus que ça. Ça fait partie intégrante du modulaire, donc on peut les acheter par internet, parce que c'est quand même une partie du business, c'est de la musique de chambre, mais beaucoup de concerts, et aussi de se rencontrer, de pratiquer ensemble. Est-ce que c'est, pour toi, c'est un truc important de la scène, en fait, modulaire, de se rencontrer ?
Oui, à fond, parce que je crois qu'il y a eu un peu une idée de, à un moment, de dire certains artistes font de la musique modulaire. Et pour moi, ça ne veut rien dire, parce que ça, pour moi, ça peut dire la même chose que certains artistes font de la musique de guitare.
Oui, voilà.
Mais là, je ne veux pas vous expliquer qu'entre le flamenco et le death metal, il y a un monde de différence. Et je crois que ce qu'on voulait représenter à travers ça, c'est la diversité musicale qui est à travers un instrument. Qu'on a une image de la musique modulaire, c'est soit de la techno, soit des espèces de patchs qui font des bruits un peu des blips et des bloops dans tous les sens, ou de l'ambient où on va poser une petite plante de salon à côté. On a un peu ces trois clichés-là, mais en fait, ça peut être beaucoup, beaucoup plus large que ça, quoi. Et encore une fois, certains lives, c'est plutôt... Bon, on va prendre l'exemple de Beatsurfing, on n'est plus du tout dans le contexte du modulaire. On revendique plutôt être un salon d'instruments de musique électronique. Mais nous, venant de cette scène modulaire, nos collections sont plus dans le modulaire. Et je crois que pour une édition de salon, première édition de salon, c'est plus simple pour nous aussi d'aller directement dans la scène qu'on connaît. Et je crois aussi qu'il y a une curiosité générale à l'heure actuelle sur ces instruments un peu bizarres, quoi.
Et puis, ouais, tu en parlais aussi un peu, le fait que ça soit aussi lié à du business, à des micro-industries. Tu parlais de c'est aussi un salon qui est finalement marche avec quelques sponsors, mais pas du tout d'argent public, par exemple. Il n'y a pas eu une volonté ou c'est juste que c'est une manière plus simple de travailler, de voir directement avec des constructeurs ou des sponsors.
Je crois qu'à l'heure actuelle, l'argent public, c'est compliqué. Alors la question, ça à moitié pas posé, mais on a quand même une réflexion là-dessus. Premièrement, parce que c'est la première édition, qu'en général, c'est très dur de trouver des subsides pour une première édition. La deuxième chose, c'est qu'on a une dimension commerciale dans notre événement. Il ne faut pas l'oublier. Et qu'à partir du moment où on a une dimension commerciale, à partir du moment où on peut faire contribuer des gens qui ont les moyens sans aller ponctionner dans les fonds publics qui peuvent peut-être servir à d'autres personnes, on préférera faire comme ça. On préférera complètement ne pas... Je veux dire, si nous, on peut trouver de l'argent ailleurs et laisser des enveloppes pour d'autres pouvoir faire des événements, on est d'autant plus heureux. Tant qu'on peut se permettre ça, on le fera comme ça.
Ben voilà, on arrive vers la fin, donc c'est wam2m.io. Oui. Donc toutes les infos sont à nouveau là, merci d'avoir pris le temps. Et quand même un petit point, je vois que vous avez, dans les constructeurs en tout cas, j'ai l'impression que c'est une scène fortement masculine, et il y a quand même, dans les concerts qui sont pris, on est presque à une parité, on a un petit peu, on n'a pas une parité, mais on a en tout cas dans la scène du soir, la présence des femmes dans cette scène-là, comment toi tu la vois ?
Alors, c'est compliqué. Bon, il y a... il y a quelque chose qui reflète très bien ça. Si on regarde la programmation, le vendredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir. Le samedi soir, il y a une forme de parité. Animistic Belief est composé à 50% de femmes. C'est un duo. Il y a une nana dedans. Bique et une DJ. Mm-hmm. Maintenant, on va prendre l'exemple du samedi après-midi. Là, on a fait très attention aussi à avoir une parité. Et on voit que dans la nouvelle génération des musiciens électroniques, il y a de plus en plus de femmes. Donc, les lives à la Smart, il y a Sacha Sykes ou Music for Hiccups qui sont composés de femmes. Par contre, on va regarder l'événement du vendredi soir, où là, on est dans une double niche. Une niche de musiciens un peu plus vieux bruxellois qui sont dans la scène modulaire et de constructeurs. Et là, on va prendre vraiment l'exemple des constructeurs parce que c'est quelque chose qu'on a déjà eu chez Shackmat. Alors, Shackmat n'est pas exclusivement une équipe masculine, mais à l'époque l'était. Et on a déjà eu le reproche de... on voit qu'il y a des milieux où la parité n'est pas encore une évidence. On voit des gens qui, sur les réseaux sociaux, voient une photo d'équipe. Et donc, je me défends de rien, mais je vais quand même un peu expliquer par rapport à ça. C'est que quand on prend cette espèce de très petite intersection entre des gens qui ont des connaissances en musique électronique assez approfondies et qui ont aussi une carrière technique derrière eux. Moi, j'ai ce truc-là d'être dans la musique électronique, qui est un milieu masculin. En tout cas, il y a 20 ans, ça a été fort quand j'ai commencé. J'ai fait des études d'ingénieur. Autant te dire que je fais des études d'ingénieur du son. Même chose, on parle de 10% de femmes dans ce genre d'études, quoi. Quand maintenant, on va prendre en Belgique le tout petit milieu des gens qui à la fois sont musiciens électroniques, ont un âge assez avancé que pour être à la fois musicien électronique, à la fois avoir une expérience technique et à la fois avoir pratiqué dans ce milieu de la technique mise au service de la musique électronique, eh ben en fait, les statistiques font qu'en Belgique, je ne connais pas une seule femme qui est développeuse de plugins, électronicienne pour la musique. Il y a des électroniciens, il y a des musiciennes, il y a des musiciens électroniques, sauf que la statistique fait que la rencontre ne s'est jamais passée. En tout cas, je n'ai jamais rencontré de femme qui était dans la R&D pour différentes marques.
Pas encore, en tout cas. Pas avant le WAM numéro 1, le We Are Music.
Et on espère. Un autre exemple, on reçoit des demandes de stage régulièrement, même de gens plus jeunes. Les gens passionnés de musique électronique, on n'a jamais eu encore une demande de stage chez Jacquemat venant d'une fille. Et ce serait avec plaisir, évidemment, qu'on accueille une fille en plus dans notre équipe.
Et ben voilà, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à aller le voir. Donc, c'est le 5 et le 6 à Bruxelles. D'abord autour de la place Bethlehem, d'un côté au Palazzo, puis à la Smart. Et puis le samedi pour lâcher la pression de tout ce week-end, quand même.
Exactement.
Et ça, content. Ça finit tard, par contre.
5h du mat. Ça se traînera même peut-être un peu plus tard.
Voilà. De 12€ en pré-vente sur le net, si on le reste à 10 balles.
Oui. Et allez-y, prenez des places, parce que les places partent pour l'after party.
Eh bien, merci. Et puis, ce week-end.
Merci à toi, Nicolas.
Ciao. Danger.